7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, comment évoluent nos habitudes alimentaires? À quoi ressemblent nos repas par rapport à ceux de nos grands-parents? Aujourd'hui, dans de nombreux pays, surtout dans les villes, on mange désormais plus gras, plus sucré, plus vite et souvent seul. Comment en sommes-nous arrivés là? On va en discuter avec nos invités. Bonjour Jacques Attali.
Bonjour.
Vous proposez des réponses à travers vos histoires de l'alimentation publiées chez Fayard. Également avec nous Loïc Bienassi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien de l'alimentation à l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation, Université de Tours. Raconter l'alimentation, c'est plus que jamais s'interroger sur l'avenir de l'humanité. Comment en effet nourrir en 2050 9 milliards de voisins? Dans quel état d'esprit aussi sont les consommateurs, puisque nous mangeons essentiellement des aliments que nous achetons. Bonjour Pascal Hébel.
Bonjour.
Vous êtes responsable du pôle consommation du CREDOC et le centre de recherche pour l'étude et l'observatoire des conditions de vie. Le CREDOC qui publie tous les 3 ans une grande étude sur le contenu de nos assiettes et comment nous procédons pour nous alimenter. Vous nous en parlerez. L'alimentation du futur va-t-elle consister à inventer de nouveaux modes de culture et de nouveaux aliments, ou plutôt à réapprendre ce que nous avons oublié? On en discute avec vous aussi, les voisins. Dites-nous comment ont évolué vos repas par rapport à ceux de vos grands-parents. Racontez-nous, vous pouvez nous appeler en direct au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le WhatsApp sur lequel vous pouvez nous laisser des messages et bien sûr tous nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. Je vous lis quelques messages postés par les auditeurs. Marcus est à Port-au-Prince en Haïti. Il dit « Nous sommes maintenant très impatients. Il n'y a plus une seconde à perdre. Le temps, c'est de l'argent. Les gens préfèrent manger ailleurs que de cuisiner. Moi, j'essaye de prendre le temps, même si je ne suis pas un expert. » Voilà, un voisin à Port-au-Prince. Rigobert est à Djang, dans l'ouest du Cameroun. « Le simple fait qu'on se marie avec une personne de tradition différente, sous-entendu une ethnie différente de la nôtre, participe au changement de nos habitudes alimentaires. » Nadie est à Libreville, au Gabon. Elle dit « J'ai goûté au carpaccio de viande et de poisson il y a 2 ans dans un restaurant haut de gamme de Libreville. Et depuis, je mange du poisson cru chez moi. Mon entourage crie « Burk !» et moi, je dis que c'est très bon. » Eric, également à Django au Cameroun, nous dit « Si les parents ne se décident pas à réapprendre à leurs enfants nos plats traditionnels, ils seront surpris de constater leur disparition. » Vous êtes surpris de ces messages ou pas, Jacques Attali?
Non, pas du tout. Ça renvoie tout à fait à la tendance longue de l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a à la fois disparition du repas comme lieu de conversation, qu'il y a une occidentalisation du repas qui est extraordinairement dangereuse et idéologique, et qu'il y a une revendication de revenir aux sources, de manger autrement, de manger plus longuement, de retrouver son identité de toutes les façons possibles.
Mais il n'y a pas beaucoup de différence entre ces messages de voisins qui sont aux quatre coins du continent africain ou en Haïti, avec des voisins qui pourraient s'exprimer en Europe finalement.
Non, parce que c'est des voisins, comme vous dites.
Oui,
nous sommes 7 milliards et 7 milliards de voisins, et en particulier en matière alimentaire, où depuis l'Antiquité la plus ancienne, depuis au moins l'Empire chinois, la nourriture circule et elle est... Je ne dis pas commune, parce qu'il y a une immense diversité de cuisines qui s'est maintenue et qui se renouvelle sans cesse. Mais malgré tout, elle est un exemple paroxystique de la globalisation et des éléments positifs et négatifs de la globalisation.
Et vous, Loïc Bienassi?
Oui, non, ça c'est vrai qu'on est frappé finalement par, j'ai envie de dire, on pourrait ne pas donner lieu où ont été émis ces différents avis, et puis on ne pourrait pas deviner exactement d'où ils viennent.
Exactement. Donc. Pascal Hébel.
Oui, moi je trouve que ça traduit une envie de diversifier, d'innovation qui est présente partout, et on voit que tout le monde y a accès aujourd'hui, et c'est ça qui fait la modernité aussi de notre alimentation, c'est de pouvoir avoir des aliments nouveaux tout le temps. Et peut-être que ça se perd dans certaines cultures, mais c'est un peu ce choix de pouvoir manger des choses qu'on ne connaît pas.
Et si possible, vite. Hein. En tout cas, dès qu'on a faim. Ouais. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. Allez, on va décortiquer, éplucher nos attitudes alimentaires dans le monde.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
Jacques Attali, vous écrivez « Parler et manger, c'est plus qu'un besoin vital ».
Quand on regarde l'histoire de l'humanité, depuis 500 000 ans, qui a commencé assez largement en Afrique, la nourriture a créé les conditions du développement du cerveau. C'est parce qu'on a mangé des choses de plus en plus digestes qu'on a pu consacrer moins d'énergie à l'intestin, plus au cerveau. Et donc le langage se développe avec l'évolution de la nourriture et en même temps la conversation, le lieu du repas et le lieu du pouvoir. Donc c'est comme ça que se sont constituées nos sociétés, c'est autour du repas, structurateur de la gouvernance des familles, mais de la gouvernance politique en général, un peu partout à travers le monde. Et aujourd'hui, ce qui est la grande évolution, c'est que nous mangeons de plus en plus seuls, nous mangeons de plus en plus vite, le repas disparaît, moins en France qu'ailleurs. La France est un îlot de résistance assez fort. Partout dans le monde, on mange de façon nomade, portable, vous l'avez dit tout à l'heure, on mange à toute heure, n'importe quand, n'importe. Et donc, la nourriture devient un élément de solitude, alors qu'elle ne l'était pas. Je cite dans le livre l'exemple frappant de ce hiéroglyphe égyptien qui dit à la fois parler, manger et aimer. C'est le même mot pour dire les choses, et c'était vrai à travers l'humanité jusqu'il n'y a pas très longtemps. Donc le grand basculement, c'est la croissance démographique, et c'est l'industrialisation américaine, qui est fondée sur un principe presque explicite à la fin du 19e siècle, c'est le repas est l'ennemi du capitalisme. Manger longtemps, c'est pas bon pour le capitalisme, premièrement parce que ça prend du temps qu'on n'utilise pas à consommer et à produire, et deuxièmement parce qu'on dépense trop d'argent pour l'alimentation, il faut dépenser moins d'argent, le moins d'argent possible, ouais, pour dégager du temps et de l'argent pour faire autre chose.
Bon, alors là, vous avez balayé déjà 20 siècles en 2 minutes et demie, mais enfin, on a quand même un peu plus de temps dans cette émission.
C'est une table des matières, disons.
Loïc Bienassi, vous êtes historien de l'époque moderne à l'origine, même si vous vous intéressez à l'alimentation au fil des siècles. Comment finalement a évolué nos attitudes alimentaires par rapport aussi au pouvoir, à la politique, à la crainte que le peuple n'ait pas suffisamment à manger, parce que ça a quand même été ça pendant des siècles.
Oui, tout à fait. Il y avait cette notion qu'on appelait d'économie morale, qui était que, en effet, l'un des devoirs du souverain, dans une sorte de logique paternaliste, était aussi de faire en sorte que le peuple ait accès à des prix raisonnables, on va dire, au cœur de ce qui constituait la subsistance, c'est-à-dire le pain, notamment.
En France, vous parlez.
Oui, là je parle du cas français. Même si en Europe occidentale, on retrouve ailleurs, comme en Angleterre par exemple. Donc il y avait cette idée-là. Il ne faut pas imaginer que durant l'Ancien Régime, il n'y avait pas ce type de conception qui existait déjà. Pour les modes alimentaires de l'Ancien Régime, mais il faut bien voir aussi qu'on est quand même dans une population largement rurale, que la base de l'alimentation, c'est donc le pain de métaille, souvent, c'est-à-dire mélange de froment et de seigle dans des proportions variables, et qu'à côté de ça, on a des légumineuses, on a la soupe, on a tout un... Mais évidemment, un régime alimentaire, c'est-à-dire que assez rudimentaire pour le jugement actuel, j'insiste un peu là-dessus parce que il y a tout un sentiment de nostalgie qui souvent anime nos contemporains, nostalgie d'un temps qui, je crois, souvent n'accepterait pas et qui leur est totalement étranger.
Vous voulez dire qu'on pourrait absolument plus se nourrir aujourd'hui comme on se nourrissait à l'époque de la Révolution française.
Oui, et même, je pense qu'on peut prendre même peut-être début XXe siècle encore.
Jacques Attali, pourquoi écrivez-vous que le modèle du repas européen a dominé le monde ? Il y a tout de même eu des repas totalement différents et encore qui subsistent encore aujourd'hui, en Asie notamment.
Oui, oui, c'est le modèle du repas européen qui est ensuite devenu le repas américain, s'est installé, organisé avec la table, la façon de manger en famille, etc., qui correspond à l'habitude européenne. Mais naturellement, le contenu des repas reste très différent d'une région à l'autre, mais le modèle européen qui est vrai dans beaucoup d'autres choses, la façon de s'habiller, la façon de penser, l'occidentalisation s'est trouvé aussi dans...
Mais toutes les sociétés traditionnelles se mettent ensemble pour manger ?
Elles se mettaient ensemble pour manger, oui. Vous parlez de sociétés traditionnelles, voire les sociétés anciennes, le repas, comme je disais tout à l'heure, est le cœur de l'organisation du pouvoir, du village, de l'empire, et le pouvoir, que ce soit dans l'empire romain, ou dans l'empire égyptien, ou chinois, ou dans les villes grecques, c'est autour du repas que se constitue le pouvoir politique. Et on le voit plus longtemps dans l'histoire, la façon dont le repas du politique évolue. Je raconte le repas de Louis XIV, ou ensuite les repas des princes du 19e, puis ensuite le repas qui bascule chez l'homme d'affaires, qui est très différent ensuite.
Dans un très bon restaurant, où voilà. On reste longtemps à table. Où,
ça, c'était le repas d'affaires.
Où on buvait, où on fumait, il n'y a encore voilà. pas si longtemps d'ailleurs.
Oui, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Même le repas d'affaires est en train de disparaître, même si la France est encore une fois un cas particulier. Partout, il disparaît. Le politique mange de moins en moins. Je cite l'exemple de la Maison Blanche où le repas principal c'est une pizza en permanence, même s'il reste des repas d'État et des repas symboliques très importants.
C'est ça, le politique mange de moins en moins, en tout cas le politique n'a pas maigri, donc le politique passe de moins en moins de temps à manger,
mais le politique
n'a pas perdu de poids.
Vous savez, quand on mange mal, on grossit. C'est pour ça qu'une des grandes maladies qui vient, qui est liée aussi au fait qu'on mange de moins en moins bien tout au long de la journée, des choses de plus en plus industrielles contenant du sucre de maïs, c'est des horreurs épouvantables industrielles. Facteur de maladie qui va être extrêmement grave.
Vous êtes bien placé pour nous raconter d'ailleurs que alors, le repas n'est plus le centre du pouvoir, qu'aujourd'hui les grandes décisions dans les multinationales ne se prennent plus à table, contrairement à il y a encore quelques années.
Non, elles se prennent dans des réunions où on grignote tout au long de la réunion, qui peut durer des heures, beaucoup trop longtemps d'ailleurs. On grignote des cochonneries.
Vous citez aussi quelques pizzas englouties par
George Bush au moment de la décision de la guerre de l'Irak. Oui, le lancement de la guerre en Irak, ils ont englouti un nombre de pizzas considérable pendant les heures de
à
la
Maison
réunion.
Blanche. Voilà.
Mais c'est un exemple parmi d'autres. Même si, je reprends ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que c'est mieux aujourd'hui qu'avant. Je ne suis pas sûr du tout que ça soit vrai. Il y a 2000 ans, l'humanité utilisait à peu près 4 à 5 000 différentes variétés de légumineuses. Aujourd'hui, on peut compter sur 5 ou 6, peut-être 10, peut-être 20, peut-être 30.
Enfin, on n'avait pas la même espérance de vie.
On n'avait pas la même espérance de vie à cause de la faible espérance de vie des enfants. Comme vous savez, l'espérance de vie se calcule essentiellement par la mortalité infantile, la mortalité des femmes à la naissance. Pas du tout la mortalité de la vie, la mortalité par l'espérance de vie, par la longueur de la vie. C'est ça, essentiellement ça. Et d'autre part, il faut voir selon les classes sociales.
Au 19e siècle, on n'a pas beaucoup de gens qui ont 85 ans et en pleine forme. Attendez, c'est pas seulement une espérance de vie calculée à la naissance.
Si, ça existe. Vous avez des gens au 17e siècle qui ont 100 ans. Ça existe. Et au 20e siècle, au 19e siècle, je pourrais vous en citer plein. Ne serait-ce qu'un homme qui avait l'habitude de manger beaucoup et qui a vécu très vieux, comme Talleyrand, et on peut en citer beaucoup d'autres. Non, la nourriture était... il faut voir par classe sociale. L'essentiel des gens mouraient de faim. La Révolution française, l'émergence du nazisme, tient assez largement à des causes alimentaires. Et aujourd'hui, on a beau dire que ça va mieux dans le monde, il y a quand même un milliard de gens qui ont faim. Toutes les 7 secondes, il y a un enfant qui meurt de faim dans le monde. Donc,
et paradoxalement, il y a la malbouffe. Pascal et Belle, on est arrivé quand même à un état très paradoxal, à des comportements très paradoxaux. Aujourd'hui, on n'arrête pas de parler de nourriture, il y a les compétitions de cuisine à la télévision. Les Américains ont des cuisines qui foisonnent d'équipements ménagers pour cuisiner, qu'ils n'utilisent jamais, qui sont neufs au bout de 10 ans. Il y a des blogs de recettes sur Internet. On n'arrête pas d'acheter aussi de la nourriture et en même temps, on mange de plus en plus mal.
Oui, alors il y a vraiment ce paradoxe que l'alimentation, il y a une trentaine d'années, n'était pas un sujet de société. Il y a quand même une prise de conscience qui est très récente dans tous les pays, et notamment ça a été lié à des crises sanitaires. Rappelons quand même qu'au début du 19e siècle, au début du 20e siècle, il y avait 100 000 cas en France de décès liés à des maladies liés à l'hygiène, c'était des bactéries, salmonellose, et donc ce qu'on a gagné quand même en qualité, c'est évidemment de ne plus mourir en s'empoisonnant en mangeant. Donc ça, c'est un premier point.
C'est-à-dire que la nourriture industrielle, c'est d'abord la sécurité.
C'est vraiment la sécurité, l'hygiène, et les Français, ils sont très très attachés d'avoir de plus avoir de bactéries. Donc c'est quand même ça qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a que 100 cas par an, et on est un des pays où on en a le plus, parce qu'on a une façon de manger qui est un peu différente. Et ensuite, c'est vrai que moi qui ai commencé à travailler sur ce sujet il y a une trentaine d'années, c'était absolument pas un sujet qui était repris par les médias. On n'en parlait pas de la façon de manger en dehors de la cuisine gastronomique et des étoilés. Et c'est vrai que ce qui a fait changer les choses, ce sont les premières grosses crises sanitaires où on s'est rendu compte en effet qu'on avait été trop loin sans doute dans l'industrialisation de l'agriculture, puisque ça commençait plutôt par la crise ESB. Enfin, la crise de la vache folle. Et finalement, c'est l'obésité qui a fait aussi changer les choses et ce regard qu'on porte. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une forte influence de notre façon de vivre. Et qu'évidemment, L'allongement du temps domicile-travail, le fait que les femmes ont une activité salariale et le fait qu'on a de plus en plus de temps consacré à des loisirs.
C'est ça. Alors donc en fait, on n'arrête pas de parler de nourriture, hein, d'où d'ailleurs votre livre, hein, 300 pages qui doit très bien se vendre, ou qui va très bien se vendre, Jacques Attali. Mais en même temps, on mange toujours aussi mal, on grossit et on passe de moins en moins de temps à table.
Oui, on passe vraiment de moins en moins de temps sur tout le processus alimentaire. Hein, c'est-à-dire qu'on passe moins de temps à faire les courses, on passe moins de temps à préparer à manger et moins de temps à table, même si on a depuis 10-15 ans un retour de la cuisine. Alors la cuisine qui est venue à la télévision par ce qui se passait ailleurs, hein, c'est des émissions qui viennent des États-Unis, hein, c'est comme le foot, on aime bien regarder mais on ne le fait pas. Par contre, c'est vrai qu'il y a, il y a un petit retour parce que finalement il y a cette volonté de lutter contre ces angoisses. Et finalement, si l'alimentation est devenue un sujet de société, c'est bien parce qu'on en a peur. On a peur de ce qu'on mange, et ce qui n'était pas le cas. On n'était qu'à la moitié des Français qui, avant la première crise de la vache folle, pensaient que c'était un risque de manger, un risque pour sa santé. Aujourd'hui, on est à trois quarts des Français. Et donc finalement, c'est parce qu'on a peur que finalement, on s'est mis à refaire un peu la cuisine et on voit que notamment le partage des tâches ne se fait plus entre les hommes et les femmes, alors qu'il y avait eu des hommes des jeunes générations qui reprenaient la main. Et là, ce sont les femmes qui sont les plus inquiètes et qui vont faire un peu plus de cuisine dans des catégories très aisées. Hein. N'oublions pas quand même que les catégories les plus modestes n'ont pas le temps ou autre chose à penser.
C'est ça, rien ne change réellement. Le temps passé à table, il y a beaucoup de chiffres dans votre livre, Jacques Attali, qui est très documenté, mais c'est 1h02 par jour, c'est-à-dire les trois repas additionnés aux États-Unis. 1h02, 1h36 par jour chez les Chinois, qui pourtant travaillent beaucoup. 1h19 chez les Indiens, 2h05 chez les Espagnols. Donc du simple au double entre les États-Unis et l'Espagne.
Oui, l'Espagne est un cas aussi très particulier, parce que les horaires de la vie espagnole sont vraiment uniques. Et si on regarde l'Afrique, qui est aujourd'hui certainement le continent le plus menacé par la malbouffe, à mon avis, d'abord parce que la population va, comme chacun sait, doubler en 30 ans, et aussi parce que toute la nourriture traditionnelle africaine est en train de disparaître au bénéfice de l'importation de produits agricoles européens et de sous-produits de la cuisine européenne qui sont vendus moins cher que les produits locaux, ce qui est un scandale qui devrait être vraiment interdit, qui est vraiment un crime que commet l'Occident face à l'Afrique.
C'est le cas notamment, enfin pas que l'Occident, la Chine.
C'est le cas aussi pour
la tomate, le concentré de tomate qui a envahi toutes les strates de la cuisine africaine.
Les poulets qui est utilisé comme venant d'Europe alors qu'il existe des poulets africains.
Et puis les cubes pour agrémenter la cuisine.
Tous les produits, toutes les sauces, et puis tous ces magnifiques légumes africains qu'on est en train d'oublier, qu'on a oublié, comme le fonio, le moringa, qui sont des merveilles de l'alimentation saine, mais il y en a des dizaines d'autres, des centaines d'autres, puisque l'Afrique regorge de produits de grande qualité, mais l'Afrique n'a pas pris en main encore, on peut généraliser, mais c'est variable d'un pays à l'autre, les conditions de la protection de son alimentation. Certains pays l'ont fait, hein, comme les pays du Maghreb ou certains pays d'Afrique de l'Est, mais en général, l'Afrique souffre terriblement de ses conséquences, de ce qui vient de Chine aussi, puisque une grande partie du riz vient de là, et les risques sont considérables. L'obésité.
L'Afrique qui ne connaissait pas le riz autrefois.
Qui n'avait aucune raison de le connaître sauf par l'importation. L'Afrique qui ne connaissait pas nos poulets européens. L'Afrique qui ne connaissait pas le pain. Qui n'avait pas de raison de le connaître, toute une série de...
Alors, le problème, ce n'est pas la circulation des produits, bien évidemment. Hein.
C'est la destruction des produits locaux.
Vous évoquez, Jacques Attali, un complot, on peut le dire, du capitalisme industriel en Europe et aux États-Unis au 19e siècle, hein, pour passer moins de temps à manger afin de faire en sorte que les gens travaillent plus.
Oui, on ne peut pas dire qu'il y a un chef d'orchestre de ce complot. C'est une évolution qui commence d'ailleurs en France par le vitalisme au 18e siècle, qui se traduit par les prédicateurs américains qui vont reprendre ça en main, en particulier M. Kellogg et tous ceux qui sont les prédicateurs évangélistes du milieu du 19e siècle.
Puis vous citez d'ailleurs un prédicateur protestant de Philadelphie qui s'appelle Graham, qui n'est pas du tout un apôtre de la malbouffe. Hein, ce type-là, en 1860, il s'oppose à la consommation d'alcool, à la consommation de viande, d'épices, à l'activité sexuelle, ça aussi. Bon,
c'est pour ça qu'il invente les cornflakes ensuite.
Et il recommande aussi de ne pas consommer de céréales produites en utilisant des engrais chimiques. Il dit ça en 1860.
Oui, les engrais chimiques commencent à apparaître, donc il est aussi, de ce point de vue, le premier à alerter sur les risques que représentent les engrais chimiques.
Et après, il dit, pour lui, je termine de citer votre livre, pour lui, le goût n'est pas le critère de qualité de la nourriture, il faut manger des produits sains, donc fades. On se croirait chez les véganes aujourd'hui.
Oui, c'est vraiment le début de la nourriture sans plaisir. Donc une nourriture sans plaisir, ça veut dire une nourriture où on passe le moins de temps possible à manger et qui va ouvrir à la nourriture industrielle, qui va d'ailleurs se compléter parce que cette nourriture sans plaisir, qui est explicitement volontaire.
Mais c'est dévoyé parce que là, c'est quand même pour la santé.
C'est pour la santé, mais en même temps, le discours c'est aussi pour réduire la pulsion sexuelle. C'est pour vraiment... Souvent d'ailleurs, vous remarquerez que dans beaucoup de domaines, pas seulement dans l'alimentation, c'est pas la ruse de « vous allez être en meilleure santé » qu'on fait passer les pires choses. La santé est un prétexte pour faire passer les pires choses. Et puis, vient se compléter assez vite par Monsieur Heinz, qui invente le ketchup. Et l'alliance entre cette nourriture industrielle qui vient en partie d'Asie, d'Amérique latine, etc., qui est le ketchup, et du cornflakes va donner l'abomination de la nourriture industrielle qui va... quelques 30 ans plus tard, basculer dans le restaurant fast-food.
C'est ça. Heinz qui dit « Mettez une petite sauce sur la nourriture pour en masquer le mauvais goût ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Loïc Bienassi, d'une forme d'instrumentalisation de l'agroalimentaire au 19e siècle ?
Alors, d'abord, je ne suis pas sûr que les véganes seraient très contents d'entendre dire qu'ils pensent que la nourriture sans plaisir. Hein. Je pense qu'il peut y avoir un plaisir quand même dans la nourriture.
Très honnêtement, végane. Le tofu, ça a zéro goût. Hein,
oui, mais je pense qu'il existe... En plus, je ne suis pas végane, donc je ne suis pas partie. Mais je pense qu'il y a toute une tas de pratiques culinaires qui peuvent se développer. Non, on voit aussi, de toute façon, dans ce qui a été dit, qu'il y a une dimension morale aussi. C'est-à-dire qu'il y a là un fond de christianisme où on cherche à réfréner finalement les plaisirs du corps sous toutes ses formes. La gourmandise est un de ses plaisirs, ascétisme sexuel. Donc c'est une vision ascétique des choses là, qui est aussi qu'on a pu évoquer à l'instant. Par rapport au développement de la nourriture, on va dire industrielle, pour faire très très rapide. Le fait est qu'il ne faut pas oublier non plus que ça a répondu à une vraie demande. C'est-à-dire que, par exemple, mieux manger pendant 10 siècles, ça a été manger de la viande. L'industrialisation a aussi permis de... Alors, on peut aujourd'hui dire qu'en effet, c'était une viande avec des nitrites et on continue d'en mettre. Mais n'empêche, c'était aussi accéder à cet idéal. Donc, l'amélioration, c'était manger de la viande. L'amélioration, c'était manger du pain blanc. On en est revenu de tout ça. En tout cas, on en est revenu.
Mais sur le fait
les pratiques,
de manger plus vite de la nourriture très rapide, préparée à l'avance par d'autres qu'on achète pour passer plus de temps au travail. Est-ce que pour vous, c'est vérifié ça ?
Alors, si on regarde, travail, plus de temps pour consommer autre chose que de la nourriture.
Oui, même si la nourriture est aussi une industrie, donc consommer de la nourriture, c'est aussi consommer des biens manufacturés d'une certaine façon. Mais le fait est que de toute façon, le fast-food, la junk food, ça existe depuis, j'ai pas ce qu'on va dire, la nuit des temps. C'est-à-dire acheter rapidement de la nourriture préparée par d'autres pour manger dans la rue, ça existe dans l'Europe médiévale, ça existe partout, ça existe à Rome, dans l'Antiquité.
C'est-à-dire la nourriture de rue.
Oui, la nourriture de rue, oui, tout à fait.
J'explique dans le livre que les Romains n'ont pas de cuisine dans leur appartement, sauf les riches qui ont une cuisine.
Tout à fait, et c'est la même chose dans les villes d'Europe, même l'Europe moderne, etc.
Et c'est encore le cas dans certains pays d'Asie, d'ailleurs, où on n'a pas vraiment de cuisine et où on achète de la cuisine préparée, un peu faite maison, mais dans la rue.
Donc, du coup, il ne faut pas non plus fantasmer une sorte de fait maison, là encore, qui remonterait jusqu'à la nuit des temps, parce que non, il y a toujours eu ce type de pratique. Si on regarde à l'époque moderne, 16e, 17e siècle, au Moyen-Âge, on voit aussi que si on regarde les corporations, les contrats de travail prévoyaient, les règlements de corporations prévoyaient des pauses pour les repas. Et finalement, quand on regarde justement les règlements dans certaines usines au 19e siècle, je pense à la France là encore, on voit qu'il y a une certaine continuité quand même entre ce qui dictait les règlements des corporations au Moyen-Âge jusqu'à très avant dans le 19e et même au 20e siècle. Donc, quelquefois sur le long terme, on voit quand même qu'il y a des continuités avec des pauses prévues. Par contre, sur le fond, en effet, c'est-à-dire que le temps industriel, le temps de l'usine, ait voulu renier sur ces moments où l'ouvrier finalement s'échappait, entre guillemets, ça il est clair que c'est une réalité.
Pascal Hébel, est-ce que la France, avec sa réduction du temps de travail à 35 heures, a eu une incidence sur les repas? Est-ce que ça a permis ce temps libre qui a été tellement vanté politiquement de passer plus de temps à préparer des repas?
Alors c'est vraiment l'inverse qui s'est passé, parce que la mise en place des 35 heures, on a réduit le temps de pause à midi. Et ça se voit aussi dans le monde universitaire, puisque en effet, on considère que c'est, on le met de côté, et on voit que dans les cours, il y a des cours qui, des matières qu'on a du mal à caser, on les met entre midi et deux. Et donc, en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que la mise en place des 35 heures a réduit drastiquement le temps passé à déjeuner. Et c'est vrai que
ça semble assez paradoxal. Mais pour finir sa journée plus tôt, ou pour avoir plus de jours de congé?
Ah, c'est vraiment dans les 35 heures sur la semaine, en fait. Hein. C'est quand on a voulu faire des semaines où on ne donne pas de jours de congé en plus,
on
fait
des journées
plus courtes.
Si on ne mange pas à l'heure du déjeuner sur une semaine de 35 heures, forcément, on termine plus tôt. Il y a bien un moment où on gagne quelque part.
C'est pour en effet, partir plus tôt ou arriver plus tard. Et donc, en effet, ça gagnait du temps sur le temps de transport. Ça a permis aux gens de rentrer plus tôt. Et finalement, ils ont même fait plus de kilomètres et passé plus de temps dans le transport, mais absolument pas augmenté leur temps à déjeuner. Et ça, c'est en effet l'activité économique qui veut qu'on ne laisse pas de place pour la pause déjeuner.
Oui, ça se continue aujourd'hui par le fait que les cantines d'usines sont de moins en moins fréquentées, contrairement à ce qu'on croit, et les gens déjeunent d'un sandwich ou de quelque chose devant leur ordinateur. D'une façon très générale, on mange devant un écran à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, et plus du tout ensemble, même plus dans la cantine d'entreprise, même si elle continue à exister, même, en effet, elle se relie aux corporations dans les pays où il y en avait, mais en même temps, aujourd'hui, elle est en train de disparaître, contrairement à ce qu'on croit.
Alors, je pense que c'est pour des raisons économiques. Ce qu'on a vu revenir, c'est vraiment la gamelle dans des métiers plutôt tertiaires. C'est qu'on voit qu'il y a vraiment, comme la pause est plus courte, qu'on a voulu réduire la dépense dans les restaurants d'entreprise. Il y a une moindre fréquentation et on mange sur le lieu de travail.
Il y a aussi une méfiance ou pas?
Oui, oui. Alors, c'est vraiment les femmes des classes moyennes
qui se préparent,
les jeunes
une
femmes qui veulent savoir ce qu'il y a dans leur assiette. Et donc, il y a vraiment ce lien avec la peur.
Alors, on va essayer de comprendre tout ça, vers quoi ça nous amène pour le futur. Qu'est-ce qu'on va manger dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Et bien sûr, vous pouvez nous appeler pour regarder derrière vous comment mangeaient vos grands-parents et vous-même aujourd'hui, où que vous soyez dans le monde. Sophie nous poste ce message. Elle est à Lomé au Togo. Elle dit maintenant, on trouve à Lomé des hamburgers et des restaurants chinois. Et ces derniers sont d'ailleurs de plus en plus nombreux et fréquentés par des Togolais. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Ouais, 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Jacques Attali, vous nous rappelez dans votre livre Histoire de l'alimentation que dans les années 60, 1960, il y a eu des prédictions sur ce qu'on allait manger en l'an 2000. Qui ne se sont pas du tout vérifiés.
Non, bien sûr que non. Enfin,
qu'est-ce qu'on nous prédisait?
Bon, on prédisait la nourriture de plus en plus industrielle, on prédisait les insectes, on prédisait
les pilules
ouais. Et on prédisait même qu'on allait manger des pilules faites à partir de cadavres, comme dans Soleil Vert, qui d'ailleurs se passait cette année dans le roman qui a donné naissance au film. Donc, il faut faire très attention aux prédictions. Maintenant, dans le livre, j'en fais deux sortes. Je fais des prévisions sur la continuation des tendances et ce qui pourrait arriver si on se prenait en main, parce qu'on pourrait manger très différent. La prolongation des tendances, c'est certainement le développement d'une nourriture assez épouvantable pour 10 milliards de personnes. Certainement le fait qu'on mangera moins de viande, qu'on le veuille ou non, parce qu'il n'y a pas d'eau et l'eau est nécessaire à la viande.
Pour les cultures alimenter le bétail.
Voilà. Donc, certainement, on va être obligé de manger moins de viande. Le contrôle de l'abattage, pour des raisons de rapport aux animaux, va modifier la nourriture halal assez profondément. On va sans doute voir des mutations assez profondes avec, sans doute, pour un moment, une augmentation de la consommation d'insectes. Il y a quand même 2 milliards de personnes qui mangent des insectes aujourd'hui. Je ne crois pas que ça sera très durable, parce que comme pour les poissons, les insectes et les poissons sont des produits de cueillette. Or, la cueillette, c'est vraiment l'abomination de l'abomination, puisque ça détruit l'équilibre de la nature. Donc, on aura certainement des insectes consommés de façon industrielle. On en consomme déjà aujourd'hui, hein, même en Europe, mais comme vous savez, c'est surtout en Asie et en Afrique qu'on consomme, et en Amérique latine qu'on consomme beaucoup d'insectes. Je pense que ça va se réduire, parce que plus les gens évoluent vers une classe moyenne, moins ils ont envie de consommer d'insectes. Je pense que le développement viendra beaucoup des algues, et j'espère d'autres choses, et j'essaie de montrer qu'on peut manger sainement pour 10 milliards de personnes, à condition de transformer très profondément l'agriculture, très profondément l'industrie agroalimentaire, très profondément les règles du commerce international.
C'est ça. Donc en fait, est-ce qu'on va inventer de nouveaux aliments? Vous en avez cité quelques-uns, ou réapprendre? En tout cas, la question, c'est de nourrir 9 milliards de voisins d'ici 2050.
C'est possible. Pour
certains observateurs, effectivement, l'agriculture ne suivra pas parce que les sols sont épuisés. Donc il y a de nouveaux métiers qui émergent, des fermes verticales à la périphérie des villes, des éleveurs de viande artificielle et des cultivateurs de micro-algues, vous citiez les algues, ou d'insectes. Alors, vous n'avez pas l'air de croire aux insectes.
Moi, je crois que ça va se développer pendant 10-15 ans, puis ça va se réduire.
Alors, je vous propose un reportage à Lille, dans le nord de la France, dans un micro-élevage d'insectes comestibles, Minus Farm, ça s'appelle. Virginie Mix et son mari Mathieu se sont convertis en 2016 pour miser sur une tendance culinaire qui commence évidemment tout juste à se développer en Europe et qui pourrait peut-être se généraliser dans les années à venir. Tagliatelle aux larves, macarons protéinés ou grillons à l'apéritif. C'est un reportage de Raphaël Constant.
On va dans l'insecterie, comme l'a surnommé mon fils. C'est la pièce dans laquelle on élève des vers de farine. Donc ce sont les larves du Ténébrion molitor, un petit coléoptère qui lui ne se mange pas mais qui pond des œufs qui se développent en larves et qu'on récolte juste avant la transformation en larve qui donne un nouvel adulte.
On est dans votre sous-sol, dans une petite pièce de quoi, 10 mètres carrés.
10 mètres carrés. On a 4 bacs adultes, donc des grands bacs dans lesquels on a à peu près 1000 petits coléoptères. Ils sont nourris avec le saut de blé bio dans lequel ils vivent. Ouais. Ils sont tous rassemblés parce que je les ai nourris ce matin. Donc, du pain frais, de la pomme. Et donc j'ai plein d'étiquettes pour repérer la durée de mes bacs. Et au bout de entre 2 et 3 mois, voire 4 mois, on récolte. Je les laisse pendant 24-48 heures sans nourriture pour qu'ils se vident. J'enlèverai les quelques individus morts et puis les nymphes. Tu vois, ça c'est nymphes. Donc ça va faire les nouveaux adultes reproducteurs que je mets ici, dans un autre petit bac, jusqu'à ce qu'elles se transforment en adultes. Tous les mois, par exemple, avec 4 bacs adultes, je récolte à peu près 5 kilos de vers par mois.
Et ensuite, c'est quoi le processus de cuisson, de cuisine?
Quand on veut les cuisiner, on les sort du congélateur, on les ébouillante pour enlever les bactéries s'il devait y en avoir. Et puis après, on les cuisine comme on veut, à la poêle, au four. On met un peu d'huile, d'olive, de l'ail et on les fait rissoler. On les mange comme ça ou on les mélange avec des piments, de la sauce tomate et des pâtes. C'est comme ça qu'on voit la nourriture du futur. Hein. La farce, elle peut être déclinée vraiment à toutes les sauces et selon toutes les envies.
Et vous, pourquoi vous avez choisi de miser sur l'élevage d'insectes ?
Alors à la base, on est très sensible aux problématiques environnementales. Hein, donc on entend parler depuis des années maintenant des nuisances que l'élevage intensif génère sur l'environnement à cause de la forte mobilisation de ressources naturelles en termes d'eau, de terre. On n'a pas voulu attendre d'être 9 milliards sur Terre en 2050 pour s'y mettre. On a décidé d'agir tout de suite parce qu'on avait envie de faire quelque chose qui soit en adéquation avec les problématiques qui nous habitent, on va dire. Donc on a lancé notre petit élevage pour voir si c'était crédible et que si c'était vrai, que ça prenait pas de place, que c'était si bon et qu'on pouvait avoir des repas complets avec les insectes. Et on y a vraiment pris goût. Le démarrage, nous, on est allé se former dans le sud de la France, chez une consoeur qui est devenue une amie maintenant, qui élève depuis très longtemps, elle aussi, les vers de farine. Donc on a fait une petite journée de formation chez elle. Et puis on est revenu en prenant l'avion avec un tupperware de vers de farine vivant dans le bagage à main, en se demandant si ça allait passer, s'ils allaient pas exploser en vol ou je ne sais quoi, avec la pression, enfin bref, ils sont arrivés sains et saufs et puis on a démarré comme ça. Et puis après on s'est renseigné sur internet, c'est une mine d'informations, il y a plein de tutos pour élever toutes sortes de bêtes et là ils sont tous bien en vie, donc c'est qu'on se débrouille bien.
Et donc en tant qu'éleveur d'insectes, à quelles difficultés vous êtes confronté?
Avant d'arriver au résultat qu'on a aujourd'hui, on a fait beaucoup de tests qui étaient pas bons, qui étaient ratés. Et puis la première fois qu'on les cuisine, on n'a jamais vu ça nulle part. Donc on se demande si on ne fait pas vraiment n'importe quoi. Et puis, les faire manger aux autres, c'est pareil. Hein. Il faut déjà être sûr de soi pour le proposer aux autres. Donc, les amis, au début, quand ils venaient, c'était pas forcément évident. Maintenant, c'est eux qui en réclament. Il va falloir que l'offre, elle se développe, que la qualité soit là, que les prix soient bons pour que ça devienne vraiment un aliment, un ingrédient parmi les autres. Hein. Pour moi, la plus grosse difficulté, elle est là. C'est rare les gens qui soient complètement réfractaires. Ça apporte de la protéine animale équivalente, je vous dis, aux meilleures viandes. Donc, si on n'a pas envie de manger un steak et qu'on n'a quand même pas envie d'avoir de carence, on prend un produit avec qui intègre la protéine sous forme de poudre dans les biscuits, dans le pain, dans les pâtes et c'est bon, quoi. Nous, on s'adresse plutôt à ce public-là, celui qui a envie de, ben, peut-être comme il peut y avoir le jour du poisson, ben, qui est aussi le jour de l'insecte, des gens plutôt curieux d'aller vers de nouvelles saveurs, des nouveaux goûts, sans pour autant ne manger plus que ça et qui reste à manger pour tout le monde, pour éviter à tout prix que demain, il n'y ait plus que ça.
Alors, est-ce qu'on peut voir ce que ça donne une fois que c'est cuisiné et transformé?
Ben, une fois transformé, voilà. Ici, des larves, c'est croustillant, naturel, vous pouvez goûter si vous voulez. Et j'évite de les aromatiser trop parce que sinon on sent pas le goût, le vrai goût que ça peut avoir. Donc un petit goût de noisette.
Oui, c'est ça, ça a un goût de noisette.
Bon, là il y a une pincée de sel, mais si on met pas de sel, il se marie. Mais tout ce qui est sucré, déjà, c'est super bon. Tous les fruits secs, ça marche bien avec les pâtes, enfin ça marche bien avec beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Et dans le pain, il y a aussi de la poudre d'insectes. Hein. Comme ça, là on a là, plein de protéines, on est en pleine forme jusque ce soir, sans problème.
Loïc Bienassi, est-ce qu'il y a encore un tabou en Europe sur les insectes ou pas ?
Alors oui, je pense qu'en fait, là en fait, on est dans une approche nutritionnelle. On se dit voilà, ça peut nourrir, c'est l'avenir. Mais évidemment, l'alimentation, c'est toujours largement culturel. Or, l'Europe, on va dire la culture occidentale, alors, est minoritaire sur ce point dans le monde, on l'a évoqué, c'est-à-dire que partout, sur tous les continents...
Quand vous dites « on », c'est moi.
Oui. C'est tout à fait.
Vous pourriez peut-être dire mon nom quand vous parlez de moi, au lieu de dire « on ».
Jacques Attali est notre invité aujourd'hui. Donc,
Jacques Attali l'a évoqué, et du coup, on se rend compte qu'en effet...
C'est le seul continent, en fait, l'Europe, où on ne mange pas d'insectes,
c'est
traditionnellement, historiquement.
Et l'Amérique du Nord,
tout à fait.
Donc, on ne peut pas évacuer, évidemment, cette dimension culturelle. Reste qu'il y a, j'ai envie de dire, deux types de consommation. Par rapport à la consommation animale, souvent on oppose ce qu'on appelle une consommation sarcophagique et zoophagique. La consommation zoophagique, c'est quand on reconnaît, en fait, l'animal qu'on consomme. Mmh. Et la consommation sarcophagique, c'est quand on ne le reconnaît pas, en fait. Donc peut-être que même les Européens...
L'insecte réduit en farine,
exactement.
Ça pourra passer, éventuellement.
Ça passe déjà, puisque... nous consommons un peu d'insectes. Déjà, dans les colas, il y a des insectes. J'en donne quelques exemples dans le livre. Il n'y a pas des insectes en tant que tels, mais il y a des produits sortis de...
Ce que vous appelez les colas, Jacques Attali,
ce qu'on appelle les... Je ne veux pas donner de nom de marque, mais machin cola.
Voilà. Les sodas, quoi.
Les sodas, voilà, certains des sodas. Il y a des éléments venant d'insectes. Mais il faut rappeler les chiffres. Hein. Il y a 2 milliards de personnes sur la planète qui consomment des insectes. On consomme chaque année à peu près 1,5 milliard de porcs, un peu plus d'un milliard de porcs, pas 1,5 milliard, 1 milliard de porcs. On consomme presque 2 milliards de pizzas. Il faut voir, les chiffres sont gigantesques. Donc, ce dont on a entendu parler là, c'est vraiment minuscule par rapport aux grandes masses de l'alimentation et les mutations qui vont venir. Le porc, d'ailleurs, qui est un enjeu très important aujourd'hui, parce qu'il y a une fièvre porcine qui s'est déclenchée en Afrique, qui a mis du temps à arriver dans le pays qui consomme le plus de porc, qui est la Chine. Et aujourd'hui, la Chine se trouve en situation très grave de pénurie alimentaire pour les 6 mois prochains, parce que on a déjà dû tuer 1 million de porcs, et sans doute beaucoup plus en raison des conditions d'élevage des porcs en Chine. Donc il y a des enjeux alimentaires qui restent vrais. Je disais tout à l'heure qu'il y a 1 milliard de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Et il y a beaucoup de gens qui mangent mal, beaucoup, beaucoup de gens qui mangent mal. Et donc, ça va être, à mon avis, un des grands enjeux géopolitiques du monde. Et je pense qu'il y aura une revendication de ce que j'appelle la gastronomie positive, c'est-à-dire manger sainement dans l'intérêt de l'avenir, qui va... commencer, à mon avis, en Afrique.
Pour l'instant, personne descend dans la rue réellement pour réclamer l'alimentation.
Oui, si, je crois que si. D'abord, on a brûlé le premier McDo en France. On voit cela apparaître. Il y a des manifestations pour la faim qui continuent à exister à travers le monde. Les Gilets jaunes, c'était au départ une revendication d'être ensemble. D'ailleurs, ça a commencé par des repas autour de ronds-points. Donc, il y a... une vraie prise de conscience, et Madame l'a dit très justement tout à l'heure, on voit les
qui,
ménagères...
Qui était peu critique en tout cas sur l'industrie agroalimentaire, les gilets jaunes.
Non, bien sûr.
Avec parfois des alliances improbables entre des supermarchés qui alimentaient les ronds-points.
Exactement, mais ça renvoie au fait que les gens avaient envie de se retrouver pour manger ensemble. C'était ça auquel je faisais allusion. Mais je pense que l'exigence féminine de manger autrement. Je vais prendre un autre exemple qui est très important, sur lequel je n'ai pas un avis totalement définitif, dont je parle dans le livre. La nourriture des bébés. Les bébés sont nourris en Europe par du lait artificiel. La maîtrise de ce marché est donnée dans le monde à deux entreprises européennes. Or, l'essentiel des bébés dans le monde sont nourris au lait maternel. C'est donc un marché gigantesque qui est potentiellement ouvert pour l'industrie de ces firmes. Mais en même temps, la question c'est, est-ce qu'il faut abandonner le lait maternel? Est-ce que ça fait partie des revendications des femmes qui considèrent que c'est une de leurs libertés que de ne pas donner le sein? Ou au contraire, aller plus loin et considérer que c'est au contraire une liberté que de donner le sein et d'échapper à la nourriture
industrielle? Et il y a les revendications de l'OMS qui sont très claires là-dessus, qui est que l'alimentation maternelle est ce qu'il y a de mieux pour un enfant jusqu'à...
Et donc je crois que ça va être une des batailles majeures. Et je pense que les jeunes femmes vont être à la pointe de ce combat.
Avec moult paradoxes d'ailleurs, pour des femmes libres, féministes, mais en même temps dans l'alimentation bio, qui veulent allaiter et en même temps travailler.
Et travailler en allaitant.
Exactement. Alors je le disais, alors est-ce qu'on va réapprendre à manger autrement, à retrouver une alimentation perdue? Il y a cette idée du paradis perdu ou inventé, peut-être un peu les deux dans ce que vous nous dites, Jacques Attali. Je voudrais vous lire juste deux, trois messages d'auditeurs. Rachel en Inde qui nous dit en achetant les produits du terroir, on améliore la vie des agriculteurs du coin, mais nous en Inde on pense que les pommes des îles Fidji et les kiwis de Nouvelle-Zélande sont meilleures que les pommes, les bananes et les goyaves indiennes. Donc vous voyez, on a les mêmes problématiques. Aujourd'hui on est en train, heureusement, avec des organisations qui organisent des ateliers pour redonner des conseils concernant la culture de son jardin et des recettes aussi. Les jeunes sont en train de redécouvrir nos racines. Afi à Kinshasa aussi dit l'aliment du futur aura de la saveur et devra aussi répondre à des critères de santé. Cet aliment que je mange, en quoi est-il bénéfique pour ma santé? Elle est en RDC. Et puis Brice aussi à Yaoundé qui dit moi j'ai abandonné les plats traditionnels comme le pilé-pilé, le condiap, le tapioca pour le hamburger, la pizza italienne et le risotto rôti. Risotto rôti, ça je vois pas bien de quoi il s'agit, mais bon, peut-être c'est une erreur sur l'écran. Jacques Attali, vous dites beaucoup qu'on mange sous surveillance pour l'avenir, en tout cas qu'il y aura probablement des assurances santé, des mutuelles de santé qui seront connectées à notre frigo pour voir si on mange sainement, parce que sinon peut-être qu'on sera moins bien indemnisé pour nos problèmes de santé.
Oui, je pense que ça viendra, mais d'abord je voudrais dire à votre auditrice indienne que les meilleurs légumes que j'ai jamais mangés de ma vie, c'est à Ahmedabad dans le Gujarat, et je l'invite à voir la nourriture fabuleuse de cet état du nord.
Au Kerala aussi, qui est l'état vraiment de la nourriture végétarienne, voilà, c'est pas mal aussi.
Celle du Gujarat est extraordinaire. Oui, je pense qu'on va aller de plus en plus vers des systèmes de surveillance, dont un système de surveillance dans l'alimentation. L'assurance va dire, si vous mangez du sucre, on ne vous couvrira pas, comme on le voit avec le malus-bonus, le bonus-malus sur l'automobile, et on va avoir des frigidaires connectés, une nourriture connectée qui nous surveillera de plus en plus pour nous orienter dans la nourriture.
Pascal est belle, la nourriture uniquement sous le prisme de la santé.
Non, mais je crois qu'il y a l'écologie aussi, en fait, qui s'est portée par les femmes. À la fois la santé, c'est plus les femmes qui font attention, mais aussi cette question de préserver la planète pour les générations futures, et donc une envie d'avoir du vrac, d'avoir du local, de pas gaspiller. Je crois que le gaspillage alimentaire, c'est pas d'emballage. Oui, et le gaspillage, en fait, je pense que réapprendre finalement à pas jeter ce qu'on a acheté et mieux gérer, en fait, ça devrait s'apprendre.
Un tiers de la production agroalimentaire.
Et ça va se réapprendre si les prix augmentent. On va faire attention à pas gaspiller si ça coûte plus cher.
Il y a une conscience écologique, c'est important, parce que la baisse de la consommation de viande, c'est pour des raisons de santé, mais aussi écologique. Le bien-être animal, c'est de l'écologie. C'est une façon de vivre le rapport à la nature de façon différente. Et on sent bien que ce sont les élites qui tirent ces mouvements.
Ouais. Et les jeunes.
Et les plus riches tirent ça. Donc et les plus jeunes. Donc à partir du moment où les plus riches vont moins dans l'abondance et vont aller vers
madame,
consommer moins.
Je ne suis pas. C'est vrai, en France, je suis entièrement d'accord avec vous. La question, c'est de savoir si on n'a pas exporté ce modèle du low cost de la nourriture en Afrique, en Asie, et où ils vont passer par le pire, par lequel
non,
nous
non,
sommes
passés. Non, parce qu'ils vont sauter des étapes. Même en Chine, on veut du bio, en fait. Hein. C'est que dans les grandes villes, on saute les étapes comme dans la téléphonie.
C'est un grand enjeu, mais comme je vous le rappelais tout à l'heure, on consomme les trois quarts des porcs du monde en Chine, et la nourriture reste extrêmement tragique.
Alors, Jacques Attali, se nourrir mieux, vous le disiez tout à l'heure, n'implique pas... vous disiez que, bon, au 19e siècle, ça a été vraiment le grand capitalisme qui a détruit notre façon de nous nourrir, hein, pour qu'on mange plus vite, une nourriture toute prête, et qu'on travaille aussi peut-être davantage, et que l'on consomme autre chose, et donc ça a porté tout le grand capitalisme. Mais quand je lis dans votre livre qu'une des plus grosses fortunes américaines est un producteur d'amandes et de pistaches. Mmh. Comme par hasard, il y a une étude mondiale qui a été assez médiatisée sur la mortalité et l'alimentation qui démontre que la malbouffe tue beaucoup plus que le tabac. Hein, 13 millions dans le monde au lieu de contre 11 millions pour le tabac. Et puis surtout, alors, c'est une étude qui pointe beaucoup les carences en fruits, carences en légumes, etc. C'est mauvais pour la santé. On découvre aussi les carences en noix, noisettes, amandes. On ne nous en parlait jamais de ces carences avant, qu'il fallait consommer des noix, des noisettes, des amandes. Comme par hasard, non ?
Non, le marché va là où les besoins apparaissent. La plus grande ferme et la plus grande fortune agricole du monde, elle est en Chine. La troisième, la deuxième est encore en Chine, la troisième est en effet une ferme américaine qui produit ces produits qui vont en effet, et ce monsieur est très en avance sur les besoins, il y a des besoins, on voit d'ailleurs apparaître en France aussi des gens qui se précipitent pour développer la production d'amandes, puisque nous importons beaucoup d'amandes d'ailleurs en France alors qu'il y a des besoins énormes.
Pour répondre à un diktat de santé ?
C'est pas un diktat, c'est une recommandation, des découvertes de médecins qui recommandent cela parce qu'il y a des manques, et les manques de certaines vitamines sont essentielles, donc c'est des grands progrès qui sont nécessaires. Qu'il y ait des gens qui en tirent des bénéfices, bon, ben c'est pas plus mal s'ils en tirent des bénéfices pour des bonnes raisons et pas pour des mauvaises.
L'œil bien assis, finalement, est-ce qu'aujourd'hui, en 2019, on peut décider vraiment ce qu'on mange ?
Sans doute plus qu'avant. Avant, peut-être un peu flou. Je pense qu'en effet, tout à l'heure, on a parlé sur la longueur historique, la profondeur historique. On était généralement dans une économie, une société, on avait guère le choix. On a certainement plus le choix aujourd'hui. On a accès à beaucoup d'informations, on vient de le mentionner à l'instant. Donc, on est en tout cas dans une conjoncture, oui, on a davantage de choix et davantage la capacité de choisir. Mais il y a aussi, dans la balance, évidemment, tout un tas de facteurs qui faussent, qui biaisent ce choix, ne serait-ce que le marketing, qui peut justement nous donner une impression de choix et qui, en réalité, est un choix largement conditionné.
Ouais, ça, je crois qu'on l'a bien compris. Je vous lirai, pour terminer, le message de Mustapha à Dakar, qui vient de Casamance, qui nous dit « Le fast-food envahit nos villes, mais sur le territoire, les gens continuent de cuisiner traditionnellement, sous-entendu en dehors des grandes villes. En revanche, le mijotage fait perdre les vitamines. C'est le problème de nos plats. » Voilà.
Ah oui, je connais bien la Casamance et il a tout à fait raison. Mais en Casamance, il y a du moringa et si vous voulez bien le cultiver, il verrait que c'est une plante. Et il y a beaucoup d'autres plantes extraordinaires.
Ça, c'est la nouvelle ruée sur le moringa en ce moment.
Le moringa est une plante en particulier sénégalaise et en particulier de Casamance.
S'il fallait retenir une religion alimentaire de votre livre, Jacques Attali, en quatre mots, ça serait quoi ?
Ne pas manger beaucoup, manger le moins possible, manger le moins possible de sucre, le moins possible de viande et manger lentement.
Et si possible, en discutant.
Oui, c'est ça. Hein ? Manger ensemble.
Lentement, pas seul.
Manger ensemble.
Parce que vous êtes... Manger ensemble. Vous désespérez beaucoup dans ce livre de la nourriture solitaire.
Voilà. Manger ensemble.
Merci en tout cas à tous les trois, Pascal Ebel du Crédoc, Loïc Bienassi, historien de l'alimentation à l'Université de Tours, Jacques Attali, vous publiez Histoire au pluriel de l'alimentation, c'est publié chez Fayard. Merci à toute l'équipe, Sigrid Azerwal, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. Bien sûr, vous réécoutez toutes nos émissions en podcast sur les plateformes de téléchargement et sur RFI.fr et vous nous retrouvez sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et bien sûr sur WhatsApp. Demain, 7 milliards de voisins, comme une suite logique, tiens, on parlera des enfants d'agriculteurs en Afrique. Faut-il fuir la terre ou bien est-elle la solution pour les 30 millions de jeunes Africains qui entrent chaque année sur le marché du travail ? Et dans ce cas, comment transformer le métier ? Car on est bien d'accord, les jeunes ne veulent plus manier la daba par 40 degrés. Un numéro de WhatsApp, 33 1 84 22 71 71. À demain les voisins.